Alors ce soir, dans cette étude, j'aimerais parler de la personne et du rôle du Saint-Esprit. Peut-être que nous aurons besoin d'un autre message au moins pour continuer sur ce sujet. Mais j'aimerais répondre dans ce message à des questions concrètes sur la personne du Saint-Esprit, son rôle dans notre vie. Qui est-il? Comment fonctionne-t-il? Que fait-il? Et le Saint-Esprit a bien sûr un rôle très important, mais qui a été négligé pendant des siècles. Spécialement par l'Église de Rome, qui ne parlait jamais du Saint-Esprit, c'était quelque chose de mystérieux et d'inconnu. Et donc les chrétiens ne réalisaient pas que le Saint-Esprit pouvait avoir un rôle dans leur vie. Ils ont commencé à y penser en revenant à la Bible lors de la Réforme, et c'est bien plus tard, lorsque des chrétiens ont vraiment voulu vivre pleinement la parole de Dieu, qu'ils ont réétudié la doctrine du Saint-Esprit. Qui est-il et quel est son rôle? Notre Dieu est un Dieu trinitaire. Il a trois personnes en une, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'Esprit, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, mais un petit peu comme s'il était, il émanait de lui, il était aussi avec un rôle particulier. Il agit sur la création, on le trouve dès le début dans la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, donc il a participé, il a agi dans la création de l'univers matériel. Mais aussi, il agit surtout dans le cœur des hommes. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de toucher le cœur des hommes. Nous voyons que c'est une personnalité, c'est une personne. Je vous donne trois exemples. Il a une volonté. Si vous regardez dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il est écrit que le Saint-Esprit, un seul et même esprit, opère toutes ces choses. Il parle des dons spirituels. Il les opère, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. C'est cette petite phrase, hein, comme il veut. Le Saint-Esprit a une volonté, il a un rôle. Il n'est pas juste un gaz ou une force, ou je ne sais pas, une émanation de Dieu. Il a une volonté, et là, c'est dans les dons spirituels. Il parle aussi, acte 13, verset 2. Ça, c'est tout à fait étonnant. Acte 13, 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc c'est Dieu, hein, bien sûr, à travers son Saint-Esprit qui parle. Donc ils entendent, je ne sais pas comment, mais une voix qui leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Et puis il enseigne, ça c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, quand il est défini le rôle du Saint-Esprit, Jean 14, 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc on voit le rôle du Saint-Esprit de nous enseigner et de nous rappeler ce que Christ a dit. Le Saint-Esprit est en fait le vicaire de Christ, hein, le remplaçant de Christ. Ce n'est pas le pape, le vicaire de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et il nous rappelle ce que Christ a dit, c'est-à-dire il ne rajoute rien, il n'invente rien, il nous rappelle, il nous ramène aux paroles de Christ, il glorifie Christ. Mais dans ce verset, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la Trinité, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom qui ? Le nom de Christ. Hein ? Le Père, le Saint-Esprit et Christ, dans ce verset 26 de Jean 14. Donc le Saint-Esprit est une personne, il a une volonté, il parle, il enseigne. Il agit aussi dans nos cœurs. Le verset clé que j'aimerais, par lequel j'aimerais vraiment commencer ce soir, c'est dans Colossiens, chapitre 1, verset 27. Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 27. « Dans le contexte, l'apôtre Paul écrit au sujet du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints. Et quel est ce mystère ? Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, et il vient en nous. Et c'est un mystère qui n'existait pas avant. Ça a été révélé par Dieu aux apôtres. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir Christ en nous. C'est un mystère que Dieu a révélé et qui est fondamental pour notre vie. Dieu n'est pas quelqu'un d'extérieur pour quand on est croyant. Dieu est quelqu'un qui vient habiter dans le cœur. Il ne nous lâche jamais, il est là avec nous, dans notre esprit. On ne peut pas expliquer comment il le fait, mais on sait qu'il le fait. D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé aux disciples en Jean 14, verset 16. Vous avez remarqué que Jean 14 est un chapitre qui parle beaucoup du Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alors, pour l'instant, il dit « avec vous ». Mais il continue, verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et donc le Seigneur Jésus prophétise qu'un jour le Saint-Esprit viendrait habiter le cœur des croyants. C'est arrivé à quel moment de l'histoire ? À la Pentecôte, Actes chapitre 2, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est là que le Saint-Esprit est venu sceller le cœur des croyants. Jusque-là, il était avec eux, mais bientôt, il dit, il sera en vous. Et nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous pouvons dire que nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est tellement vrai que nous sommes appelés le temple de Dieu. Le temple de Dieu, ce n'est pas le bâtiment de notre église ou des églises. Le temple de Dieu, c'est le croyant, c'est le corps. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment aussi veiller sur notre corps, de ne pas faire n'importe quoi. Je pense à ceux qui ont des problèmes avec la cigarette. C'est une vérité qui peut aider. Pourquoi est-ce que je vais souiller mon corps avec quelque chose de totalement chimique et empoisonné, hein? C'est un poison. Ça ne fait rien de bien. La cigarette n'apporte strictement rien de bien. Et quand on dit, moi, de fumer, ça me détend, c'est une tromperie. Je dis ça parce que j'étais fumeur. Ça détend parce qu'avant d'allumer la cigarette, on est en manque, forcément. Étant en manque, on est énervé, puisque le manque produit vraiment un stress et un énervement. Et au moment où on allume et on prend la première bouffée, hop, la nicotine et le goudron et tout ça, et le tabac, viennent suppléer le manque et vous détendre. Mais c'est vraiment une drogue, en fait. Voilà. Ça ne détend pas en soi. Ça détend parce qu'on est en manque. Mais bien sûr, il n'y a pas que la cigarette, mais nous sommes le temple de Dieu, on ne doit pas faire n'importe quoi avec le temple de Dieu. On n'amène pas le temple de Dieu n'importe où. C'est sacré le temple de Dieu. La vie d'ailleurs est sacrée hein, dans la Bible. Et chaque être humain a un droit inaliénable de vivre. Pourquoi Dieu veut-il habiter en nous ? Pourquoi a-t-il voulu mettre son esprit en nous ? Bien, quand on lit la Bible, on voit qu'il a toujours voulu être avec son peuple. Si on regarde le jardin d'Éden dans les premiers chapitres de la Genèse, tous les soirs, Dieu venait faire une promenade avec Adam et Ève. J'aime bien cette expression, hein, il se promenait dans le jardin. C'est vraiment l'idée de flâner, de marcher tranquillement. C'est une idée de tranquillité, de quelque chose de paisible. Dieu était là avec Adam et Ève et il leur dit « Comment s'est passée ta journée ? De quoi as-tu besoin ?» Il y avait cette communion toute naturelle, toute spontanée. Malheureusement, elle a été rompue à partir du moment où Adam et Ève ont trahi la confiance de leur Créateur et la mort et la malédiction sont entrés dans le jardin et sur la terre. Après cela, c'est au temps de Moïse que Dieu a dit, vous allez faire une tente et j'habiterai dans la tente. On l'appelle dans la Bible seconde la tente d'assignation, la tente de la rencontre. C'est là que Dieu se rencontrait, parlait avec Moïse. Et c'est devenu plus tard le tabernacle, hein, une sorte de temple portatif. Et puis plus tard, c'est devenu au temps de Salomon, le temple en pierre, hein, en dur. Mais chaque fois, Dieu était dans cet endroit, le lieu très saint. La Shekinah, qui veut dire hein, la gloire de Dieu, était là, sur l'arche d'alliance, parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Jésus lui-même est une preuve que Dieu veut habiter parmi nous, puisqu'il est l'incarnation humaine de Dieu. Dieu s'est incarné, il est devenu un homme, il a habité parmi nous, il a tabernaclé parmi nous, dit l'évangile de Jean. Le Dieu invisible s'est révélé de façon visible et il est venu nous racheter de nos fautes par sa mort sur la croix. Mais après que Jésus soit reparti au ciel, Dieu n'était plus présent parmi nous. Alors c'est pour ça que Jésus, dans Jean 14, dit « Quand je m'en irai, je vous enverrai mon remplaçant. » Il dit « un autre consolateur. » Là, j'entre dans un petit détail linguistique, mais en grec, il y a deux mots pour « autre ». Il y a un autre de même nature et un autre différent. Nous, en français, on n'a qu'un seul mot, « autre ». Mais en grec, il y a une nuance. Et là, c'est un autre de même nature. Le Saint-Esprit est la même nature divine, l'essence divine, et il a remplacé Jésus-Christ. Sauf que c'est encore mieux, parce que Jésus a dit « il vous est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit ». Pourquoi ? Parce que Jésus, seuls ceux qui étaient près de lui pouvaient l'entendre. Il fallait aller vers lui, dire, si on avait une question, il fallait faire la queue et dire, Seigneur, j'ai une question. Mais quelquefois, la queue était très longue. Maintenant qu'on a le Saint-Esprit, Christ est en nous. Reprenons un peu cette idée. Est-ce que vous n'auriez pas aimé être avec les 12 disciples et suivre Jésus ? Bon, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il marchait beaucoup. Il ne mangeait pas toujours aux bonnes heures, il ne dormait pas autant qu'il voulait, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de démoniaques qui venaient, des malades, des gens, des foules. Il ne devait jamais être tranquille. Hein. Mais c'était exaltant de suivre le Messie, de voir et de parler avec le Sauveur, de lui parler comme ça, comme on parle à son ami. Est-ce que vous n'auriez pas aimé ça ? Eh bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a ça, puisque l'Esprit de Christ est en nous. Simplement, je pense qu'on ne réalise pas à quel point Christ est là, avec nous, avec chacun de nous, dans notre maison, dans les transports, partout, il est là avec nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient en nous. C'est pour nous apporter Christ dans notre vie de tous les jours. Est-ce que ça a toujours été le cas d'avoir le Saint-Esprit en soi ? Eh bien, si on regarde dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, comme nous l'avons aujourd'hui. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu était présent, il agissait de différentes façons, mais la Bible dit qu'ils étaient revêtus du Saint-Esprit. C'est cette idée que le Saint-Esprit les habillait pendant un temps, c'est-à-dire saisissait une personne et lui faisait faire certaines choses pour la gloire de Dieu. Ça pouvait être un prophète, un roi, une prophétesse. Le Saint-Esprit venait saisir quelqu'un. Je pense aussi qu'il était très près des croyants fidèles. David, par exemple, dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Ça veut dire que l'Esprit Saint était avec lui. Mais il n'était pas scellé comme nous le sommes aujourd'hui. D'ailleurs, les prophètes Jérémie et Ézéchiel ont annoncé qu'il y aurait un jour une nouvelle alliance. Et c'est le sens du Nouveau Testament. Hein, Nouveau Testament, nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu mettrait son esprit dans le cœur. On peut regarder Ézéchiel 36, par exemple. Ézéchiel 36, 26. Où Dieu déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc Dieu dit, dans un temps futur, je vous ferai naître de nouveau, c'est ça qu'il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Vous aurez un cœur comme le mien, qui ne sera pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur tendre. Et je mettrai mon esprit en vous, afin que vous suiviez mes lois. Jérémie, chapitre 31, verset 31, il dit, je mettrai mes lois dans votre cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avons le Saint-Esprit, la loi de Dieu n'est pas juste des mots écrits dans la Bible. La loi de Dieu, elle est écrite sur nos cœurs. Et naturellement, poussé par le Saint-Esprit, on a envie d'obéir à Dieu. Je vais en reparler un peu après. Donc, la venue de Christ, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, ont amené quelque chose de nouveau dans l'économie de Dieu. C'est que maintenant, désormais, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Il habite en nous et on ne peut pas le perdre. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Ce soir, je donne des choses un peu de base et une prochaine fois, on ira plus loin dans le rôle du Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint? Est-ce que c'est par le baptême d'eau? Voilà, dans l'Église catholique, c'est enseigné que le Saint-Esprit vient au moment du baptême d'eau. Il se base sur, en particulier, un verset des Actes, Actes 2, verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ » pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Pierre dit, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc effectivement, si on regarde ce verset, on pourrait dire, si on faisait toute la doctrine là, sur ce verset, le Saint-Esprit est reçu quand on est baptisé. Maintenant, il faut voir, le livre des Actes est un livre d'histoire du Saint-Esprit. Que fait le Saint-Esprit? Et on voit qu'il y a une évolution, notamment avec les païens. Nous sommes pour la plupart des non-juifs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas juifs, qui viennent des nations, des goyim. Et nous sommes héritiers du premier païen qui a été sauvé et scellé du Saint-Esprit, qui s'appelle Corneille. On le trouve en Actes. Chapitre 10. Corneille est un centurion romain qui craint Dieu, qui aime Yahvé et qui cherche la vérité. Et Pierre est envoyé chez lui avec réticence, mais Dieu le pousse à aller lui parler. Et il prêche au verset 43. Il dit « Tous les prophètes rendent Jésus le témoignage que quiconque croit en lui » reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc Pierre prêche le pardon des péchés dans le nom de Jésus. Il prêche l'évangile. Que se passe-t-il au verset 44 de Actes 10? Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 47. Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ?» Donc vous remarquez, ils ont reçu le Saint-Esprit, non pas en étant baptisés, mais en écoutant l'Évangile. Et à partir de ce moment-là, ce sera la norme. Le Saint-Esprit est envoyé dans le cœur de celui qui croit en l'Évangile. L'exemple se trouve non plus dans les Actes, mais dans une des épîtres de Paul, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il est écrit... En lui, Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans ce verset d'Éphésiens, il n'y a pas de baptême d'eau. Même pas mention du baptême. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être baptisé, mais ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas donné dans le baptême d'eau. Ici, ce verset confirme ce qu'on a vu avec Corneille. Après avoir entendu l'évangile, vous avez cru et vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est tout aussi simple que cela. Comment reçoit-on le Saint-Esprit? Lorsqu'on entend l'évangile et que l'on croit en Jésus-Christ pour être sauvé. Quand on croit cet évangile, cette bonne nouvelle, c'est là qu'on reçoit le Saint-Esprit. Ce qui implique qu'un bébé, par exemple, un nourrisson, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. S'il meurt, il est pris au ciel. Nous le croyons parce que Christ a payé pour le péché originel, donc cet enfant est bien sûr pris avec Dieu, mais il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut entendre l'évangile et croire. Le baptême, lui, d'eau, est un symbole visible. L'Esprit Saint est invisible et il agit de façon invisible. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit le Saint-Esprit? Il se passe pas mal de choses. Mais la première chose, c'est qu'on devient une nouvelle personne. En 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la nature de Dieu en nous. Et la nature de Dieu n'est pas comme notre nature du tout, hein. Elle est une nouvelle nature. On devient un nouvel homme, une nouvelle femme. On a une nouvelle pensée, on a de nouveaux désirs quand on reçoit le Saint-Esprit. Par exemple, concrètement, la Bible devient d'un seul coup beaucoup plus claire et elle nous parle personnellement. Avant de recevoir le Saint-Esprit, on peut lire la Bible et on trouve ça compliqué. Il y a quelques versets qui nous touchent, mais c'est quand même un peu difficile. Mais quand on a reçu le Saint-Esprit, on a soif, on dit mais Dieu me parle, qu'est-ce que Dieu va me dire? On a plein de choses qui nous parlent parce que le Saint-Esprit a activé, on pourrait dire, hein, notre esprit qui réceptionne la sagesse de Dieu. Tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu nous paraît une folie. C'est ce que dit la Bible. Même quand on dit Jésus-Christ est mort pour vos péchés, c'est une folie pour l'homme naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est mort pour mes péchés, mais il ne me connaissait pas, je n'étais pas né. Puis comment quelqu'un peut mourir pour les péchés de tous les hommes? Et puis ce Jésus, qui était-il vraiment? C'est une folie. Et pourtant, c'est comme ça que nous avons été sauvés, pardonnés. Nous le savons. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Autre effet pratique d'être une nouvelle créature, on ne peut plus pratiquer le péché comme on faisait avant. Dans l'épître de Jean, hein, au chapitre 5 de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Je lis ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Quand on a la nouvelle nature, quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne peut plus pratiquer le péché comme avant. C'est-à-dire, si on le fait, si on commence à revenir dans le péché, il y a un sentiment horrible de tristesse, de culpabilité, de dépression. Et même après, il commence à y avoir des châtiments et des jugements sur notre vie, hein. On ne peut plus pratiquer le péché comme avant parce qu'on appartient au Seigneur et Dieu ne va pas nous laisser. Et parce que le Saint-Esprit aussi n'aime pas le péché. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que Dieu a voulu mettre son esprit en nous. C'est que notre nature héritée de nos parents, elle aime le péché. Même elle ne sait faire que ça quasiment, hein. Donc elle aime désobéir à Dieu, elle aime la rébellion, elle aime l'impureté, l'immoralité, la saleté. Elle se baigne dedans et sans trop de remords d'ailleurs. Mais le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu qui a horreur du péché, qui vit dans la lumière, dans la sainteté, la pureté absolue. Et donc cette nouvelle nature, quand on l'a en nous, fait qu'on voit les péchés avec beaucoup plus d'acuité qu'avant. On dit, Ah non, je ne ferai plus ça, moi. On n'a plus envie de faire ces choses. Il y a une séparation. Il y a une nouvelle vie. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit quand on le reçoit. Et puis, on aime Dieu et les choses de Dieu comme jamais. Et on se met à aimer Dieu vraiment. J'aime le Seigneur. À aimer les chrétiens qui ont le même Saint-Esprit. À aimer la prière, par exemple. Hein, tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, prier est un exercice difficile. Alors, faut prier. Bon. Puis on ne sait pas quoi prier, alors on répète des choses. On répète. On ne sait pas ce qu'on dit. Quand on a le Saint-Esprit, on a envie de parler. C'est plus prier, on veut parler avec Dieu. Les choses du ciel nous intéressent. On dit, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après la mort? On veut savoir. Tout ce qui est spirituel nous intéresse. Tout ce qui est éternel. Et les choses du monde perdent leur attrait. Voilà ce que c'est d'être une nouvelle créature. Que se passe-t-il quand on reçoit le Saint-Esprit? On reçoit aussi une certitude qu'on est un enfant de Dieu. Je tire ça de Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit, sous-entendu de Dieu, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous lui appartenons, il est notre Père. Et c'est le Saint-Esprit qui donne ce témoignage. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit cette assurance, tu appartiens à Dieu. Et on ne peut pas la prouver ou l'expliquer. On dit, mais écoute, tout ce que je sais, c'est que j'appartiens au Seigneur. Il y a des chrétiens qui se sont éloignés de l'Église, des églises, ils sont tombés dans le péché, ils ont une vie vraiment pas chrétienne du tout. Mais si ils ont vraiment le Saint-Esprit, vous leur dites, est-ce que tu appartiens au Seigneur? Eh bien oui, j'appartiens au Seigneur. On n'arrive pas à nier ça parce que c'est un témoignage qui est là, à vie. Et c'est très malheureux qu'il y ait des chrétiens qui s'éloignent du Seigneur. Et le Saint-Esprit est le premier à être attristé par cela. On est certain d'être un enfant de Dieu. Et puis, on reçoit des fleuves d'eau vive. C'est Jésus qui a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a des fleuves d'eau vive. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Mais c'est qu'on déborde. On déborde de quoi? L'amour, la joie, la paix, le zèle. On a un zèle pour le Seigneur, pour les choses de Dieu. On déborde. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler de l'amour, on n'est plus là avec nos petites gouttes d'amour qu'on essaye de donner aux autres, et puis on essaye de prendre de l'amour aux gens, de dire « aimez-moi, aimez-moi, je veux être aimé ». Non, on est tellement comblé de l'amour de Dieu qu'on déborde. Et on distribue autour de soi. On a envie de donner. Et ce qui est extraordinaire, on a envie de donner gratuitement. Avant d'avoir le Saint-Esprit, c'est un peu donnant-donnant. Écoute, si je t'aime, tu m'aimes. Hein? D'accord ? On devient ami, mais toi, tu m'aimes. Attention. Hein? Et dans les couples, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui causent des gros problèmes. Je t'aime si tu m'aimes. Si tu ne m'aimes plus, moi, je t'aime plus. C'est comme ça que la plupart des couples non chrétiens fonctionnent. Et malheureusement, même chrétiens aussi. Quand on a l'amour de Dieu gratuit, on dit « je t'aime même si tu ne m'aimes plus » ou « si tu ne m'aimes pas ». Parce que moi, je déborde, j'ai les fleuves d'eau vive. Chut, le Saint-Esprit. Je vous donne un autre verset, hein, Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour est répandu. Dieu répand son amour. Et il le fait déborder. Dieu n'est pas radin. Hein. Tout ce qu'il fait, c'est abondant. Regardez la terre. Regardez comme elle abonde. Les tonnes d'eau, les tonnes d'insectes, de fleurs, d'animaux, d'êtres humains. Dieu ne fait jamais rien de façon avare. Hein. Voilà ce qui se passe quand on reçoit le Saint-Esprit. On devient une nouvelle créature, on est certain d'être un enfant de Dieu, on a des fleuves d'eau vive, particulièrement cet amour de Dieu gratuit que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Mais peut-être ce soir, vous allez vous demander pourquoi n'ai-je pas ces signes dans mon cœur, dans ma vie ? Ou pourquoi n'ai-je plus ces signes ? Et c'est une bonne question parce qu'un chrétien peut perdre les fleuves d'eau vive. C'est aussi simple qu'une source qu'on stoppe en la bouchant, un fleuve qu'on arrête en mettant des pierres. S'il y a des obstacles, l'eau ne coule plus. Chaque péché, chaque désobéissance, chaque résistance au Saint-Esprit est une pierre qu'on ajoute et qui arrête les fleuves d'eau vive. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Notre vie se dessèche, notre vie chrétienne se dessèche et on devient un chrétien mondain, charnel. Et c'est très triste. Et il faut revenir au fleuve d'eau vive en enlevant les cailloux qui gênent. Ce sont des choses qu'on a mises là. Seigneur, non, je ne veux pas t'obéir sur ce point. On n'a pas dit comme ça au Seigneur, mais en fait, c'est ça la réalité. Il y a quelque chose que Dieu nous a montré et on lui a dit non. On lui a tourné le dos. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dire, Seigneur, oui, j'enlève cette pierre. Sitôt que vous allez enlever cette pierre, le Saint-Esprit va commencer à re-envoyer ces fleuves d'eau. Et peut-être qu'il y a plusieurs pierres. Il y a un péché là que vous gardez. Seigneur, tu vois ce péché, il m'attriste, il me rend déprimé, il m'affaiblit dans ma foi. Je te le donne, Seigneur. Purifie-moi, délivre-moi. Et vous verrez, le Saint-Esprit va reprendre. C'est un petit peu aussi dans le muscle cardiaque. Hein. Si vous obstruez avec du gras ou toutes sortes de choses, les veines, hein, les artères, eh bien, votre cœur, il n'est plus irrigué et votre cœur, il meurt. Et c'est pareil pour l'esprit, le cœur en nous. Si il n'y a plus la sève de Christ, hein, si on n'est plus attaché au cep, il n'y a plus la vie et on se dessèche, on devient un chrétien moribond, un chrétien qui n'a plus sa joie, n'a plus de zèle, il n'a plus d'amour pour Dieu, il n'aime plus la Bible, il n'aime plus prier. Tout ça se dessèche en même temps parce qu'on a arrêté le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est très important de veiller à ce que le Saint-Esprit coule en nous, agisse en nous, de l'écouter, de lui obéir. Le Saint-Esprit a un côté très discret. Et c'est ça qui est particulier avec lui. Puisqu'on ne le voit pas, il est quasiment... Il ne nous parle que rarement. Dans la Bible, il ne parle pas souvent. Mais il est là. Et en fait, il agit de façon profonde et il nous rappelle les paroles qu'on a lues dans la Bible. Et il dit, voilà, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Christ a dit. Et si, à chaque fois qu'il nous rappelle quelque chose, on lui dit, tais-toi, 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 on éteint le Saint-Esprit, on l'étouffe. Et il ne nous forcera pas, parce que Dieu est comme ça. Et si vous avez étouffé le Saint-Esprit, que vous n'avez plus ces fleuves d'eau vive, sachez que le Seigneur est prêt à vous purifier, vous redonner ces fleuves. C'est ce qui est arrivé dans les réveils religieux. Hein. C'était des chrétiens endormis, des chrétiens totalement morts. Et d'un seul coup, ils ont redécouvert les vérités de la parole de Dieu. Ils se sont repentis, ils ont mis tous leurs cailloux qui bloquaient. Hein. Ils les ont donnés au Seigneur et les fleuves d'eau vive ont coulé, mais alors avec une force phénoménale. Ça a tout emporté. Et ça fait des réveils extraordinaires dans des églises, dans des villes, dans des pays parfois, tout entiers. Et c'est cela dont nous avons certainement besoin. Que le Seigneur nous aide à comprendre et pratiquer sa parole. Prions Dieu. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, il y a tout ce qu'il nous faut pour avoir une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Et merci de nous rappeler l'importance du Saint-Esprit qui, bien que discret, a un rôle vital dans notre vie. Et Seigneur, nous voulons que ces fleuves d'eau vive continuent de couler. Nous voulons que ton amour continue d'être répandu, ta joie, ta paix, le zèle, la ferveur. Seigneur, je prie que tu purifies nos cœurs, que nos artères spirituelles soient nettoyées, afin que ton sang et ta sève coulent, Seigneur. Seigneur, je prie et nous remettons ensemble, Seigneur, nos cailloux, nos pierres, nos blocs qui empêchent les fleuves d'eau vive de couler. Veuille, Seigneur, les briser et les détruire à jamais et garder ce fil de la communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. On va chanter les deux.